peut-être qu'on se dirige vers Baudelaire et on peut juste, Anne Stephens, commencer par un petit poème de Baudelaire.
Remords posthume. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre opprimant ta poitrine peureuse et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir empêchera ton cœur de battre et de vouloir et tes pieds de courir leur course aventureuse, le tombeau, confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète, durant ces grandes nuits d'où le somme est banni, te dira « Que vous sert, courtisane imparfaite, de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts ?» Et le ver rongera ta peau comme un remords.
Là, tout à l'heure, on vous avait parlé du temps. Bien justement, on est tout à fait dans un temps baudelairien aujourd'hui. Hein ? Et moi, ça me fait penser à ce passage de Baudelaire, quand il dit « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle ». Bien, nous avons, en nous dirigeant sur la tombe de Baudelaire, le temps qui lui convenait, une espèce de temps splinétique.
Je veux que tout change.
Je vais vous donner à tous une rose rouge. Que vous pourrez déposer là où vous voudrez pour marquer votre passage. 1, 2, 3, 4.
Merci.
Attention aux épines.
Oui.
Et il faut la tenir basse. Voilà.
Oui, oui.
Marilyn Desbioles, vous avez écrit « Seul le beau temps donne une idée de l'éternité, la pluie est anecdotique ». Alors aujourd'hui, l'idée de l'éternité n'est pas totalement présente.
C'est vrai. C'est vrai, mais le beau temps, on peut, comment dire, c'est pas forcément le ciel bleu. On peut, il y a des petits moments de beau temps parce que on découvre quelque chose. Par exemple, le nom d'un inconnu sur une tombe. Moi, ça m'ouvre des horizons de beau temps et d'éternité précisément.
Est-ce que c'est important le temps qu'il fait quand on traverse un cimetière? Ça marque le souvenir de ce passage-là. Vous parlez beaucoup du vent.
Oui, oui, c'est vrai que moi, je viens du sud, hein, je vis dans le sud, et c'est vrai que le temps, ça compte beaucoup pour des gens comme moi. Et bon, là, c'est pas vraiment le temps du sud, je vous l'accorde, mais c'est vrai que quand je viens à Paris, moi, je viens très, très souvent dans ce cimetière du Montparnasse, puisque je vais à l'hôtel, pas très loin. C'est comme un moment de... comme une parenthèse, et c'est comme mais c'est vrai que c'est comme un moment de pas de beau temps, mais de temps étiré, en tout cas. Et pour moi, c'est vrai que le beau temps, c'est lié à l'éternité, parce qu'on a l'impression que plus rien ne bouge. Bah ici, on est un peu dans ce cas de figure, non ?
Jean-Claude Garnier, vos premiers souvenirs dans un cimetière, c'était enfant ? Vous jouiez dans les cimetières ?
Oui, quand j'étais petit, oui.
Donc c'est lié à quels souvenirs, quelles premières émotions ?
Premières émotions, sans doute, avec les petites amies de ma sœur, des premières émotions érotiques, oui. Mais c'est pas pour ça que je continue à faire des photos de cimetières, hein. Ça n'a rien à voir.
Et que vous continuez à avoir des émotions érotiques ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Non,
pas du tout, non. Alice, sœur Alice, est-ce que vous avez déjà chanté pour ceux qui reviennent ?
Chanter, non. Réfléchi à essayer de représenter ce qui peut se passer après la mort par la musique, oui. Et d'abord dans l'idée que finalement la mort, c'est juste une décomposition qui va vers une autre vie, en fait. La matière existe tout le temps. Et c'est assez beau parce que c'est le principe de la création, c'est changer la matière pour... La matière pour la musique, c'est l'air, changer la vibration de l'air pour faire vibrer les oreilles. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce cimetière.
« promises never change with love for you. I wanna spend my life with you. So we'll make love in the grass and under the moon. No one can tell, don't be afraid to. A forever journey on golden avenues. Drift in your eyes, what's inside of you?
Il est 23h et l'atelier intérieur s'ouvre dans un cimetière. Nous sommes au cimetière Montparnasse à Paris. Nous allons vers ceux qui reviennent, pas les revenants, ceux qui reviennent. On entre sur la terre qui fait cohabiter les morts et les vivants. Vers, comme l'écrit Baudelaire, le tombeau confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète. Le cimetière est un espace, comme le sommeil, qui réconcilie tous les temps. Il est le passé et le présent. Il n'y a plus de séparation. Hier, aujourd'hui et demain, tout cohabite. Tout se raccorde et ce serait un point d'harmonie. Marilyn Desbioles pose la question : comment pense-t-on aux morts dans un cimetière ? Comment, à partir d'un nom, d'une date, d'une autre date, d'un calcul, il avait tel âge, à partir d'un nom, on imagine, on pense à lui, à elle, à l'inconnu. On met en scène rapidement une vie, un vêtement, un métier. Un nom sur une dalle, c'est une vie passée ou une nouvelle fiction. L'image de départ ce soir sera celle-là. Marilyn Desbioles voit son père réapparaître. Son père, enterré près de Nice, revient et fait partie de ceux qui reviennent. Pas à la façon d'un fantôme, mais de l'image qui se superpose à tout ce que l'on voit. Elle écrit « L'apparition pouvait prendre sur un plus gros, un plus grand ou plus petit, sur un blond, alors que mon père était brun. » Il y a donc des vies pas prisonnières, des deux dates gravées sur le marbre. Les vivants qui passent les réaniment. L'écriture est un hommage aux morts, les voix aussi, celles qui s'inscrivent dans les allées d'un cimetière. Ce sera ce soir une façon d'inviter les Parnassiens dans l'émission. Baudelaire, Desnos, Duras, Gainsbourg, Maupassant, Sartre ou Beauvoir ne sont pas très loin, c'est rassurant. Où serons-nous quand nous ne serons plus ? C'est ce que nous ne saurons jamais, pas plus que là d'où l'on vient. Ça ne colle jamais, d'où je viens est toujours à découvrir, écrit Marilyn Desbioles. Qui ajoute donc, seul le beau temps donne une idée de l'éternité. Le beau temps n'est pas là, mais le perpétuel, l'éternel, dans ce jardin de pierre, on va le convoquer parce qu'on va parler. On va briser le silence, chanter, répartir les fleurs. On fait du cimetière un studio de radio. On entendra peut-être des voix, on invente notre cérémonie. Il y a ceux qui ne sont plus là, il y a ceux qui reviennent, et il y a nous, les vivants, pas coincés entre deux dates, nous n'avons que notre naissance et nous sommes prêts à dialoguer avec le passé. Au cimetière Montparnasse, ce soir, Marilyn Desbioles, qui dans son livre « Ceux qui reviennent » paru aux éditions du Seuil, parcourt les cimetières et les vies qui y sont arrêtées pour les remettre en mouvement. La comédienne Anne Stephens nous en lira des extraits dans les allées. Avec nous, Jean-Claude Garnier, photographe des cimetières du monde entier. L'artiste André Chabot, promeneur nécropolitain, comme il se présente, habitué des lieux. À la chanson, l'artiste performeuse, compositrice, Sœur Alice, qui avait imaginé chanter pour les morts et faire du cimetière un orchestre. Le chemin ce soir avance dans le cimetière Montparnasse, vers ceux qui reviennent. Nous sommes les vivants, nous parlons au présent, entourés du passé. Est-ce que vous avez cette sensation-là, en vous promenant dans un cimetière, que le passé est présent, ou que le présent fait partie du, est entouré par le passé, que les choses sont liées ?
Eh bien, moi, quand je me promène dans un cimetière, oui, ce que je regarde tout d'abord, c'est les noms sur les tombes. C'est vrai qu'un cimetière, c'est d'abord un hommage aux noms. Et pour quelqu'un qui est attentif aux mots, les noms tout de suite m'évoquent des vies possibles. Donc c'est vrai que il n'y a pas de frontières. Au fond, moi j'aime beaucoup évidemment aller sur la tombe de Baudelaire ou de Marguerite Duras, mais j'aime aussi les tombes des inconnus. Ça éveille tout de suite pour moi des vies de peu ou des vies inouïes, je ne sais pas. D'ailleurs, moi, je crois au fond que dans le cimetière, j'ai ce sentiment profond que mon travail, ça consiste à faire qu'il n'y a pas de vie insignifiante. Que je dois, enfin, une espèce de mission comme ça que je me suis donnée de ne pas me satisfaire de l'insignifiance prétendue de ces vies. Hein. Il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés d'ailleurs dans ma vie qui m'ont dit mais nous on a une vie insignifiante. J'ai toujours ce sentiment qu'il faut que mon travail consiste à faire de leur vie quelque chose d'exceptionnel, ce qu'elle est toujours. Et dans le cimetière, j'ai ce sentiment profond, oui.
André Chabot, est-ce qu'en lisant les noms parfois inconnus sur les différentes tombes, vous imaginez une vie non insignifiante ?
Oui, je peux, mais je dois dire que, très honnêtement, la vie de tous ces gens-là m'intéresse assez peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils ont, par exemple, cherché à se prolonger à la fin de leur vie. La façon dont ils ont voulu laisser des traces. Et on sait que c'est en particulier le fait des artistes, des créateurs en général, des écrivains, des sculpteurs, des peintres, de vouloir justement, parce qu'ils en ont un petit peu le moyen, se bagarrer avec la mort et faire échec en quelque sorte à la mort en laissant des traces de leur passage. Et si je prends mon cas particulier, je viens avec ma femme de réaliser mon propre monument funéraire, c'est-à-dire que je fais partie des quelques personnes au Père Lachaise qui ont un monument funéraire de leur vivant.
Et il ressemble à quoi ?
Alors, c'est assez simple. J'ai récupéré, c'est-à-dire acheté en fait, une très ancienne concession funéraire, une chapelle qui date de 1850, dans laquelle j'ai fait installer, enfin nous l'avons démontée, nous l'avons reconstruite à l'identique, au titre de la sauvegarde du patrimoine funéraire précisément. Et à l'intérieur, j'ai fait poser une importante sculpture, hein, comme disent les marchands d'art. Importante surtout par son poids, parce qu'elle pèse une tonne. Il s'agit tout simplement du symbole de ce qu'aura été mon travail pendant toute ma vie. Photographier les cimetières, donc c'est un appareil photo en granit noir, qui est la réplique exacte de l'appareil que j'utilise encore. Il y a sur la façade de la chapelle en question un flashcode. C'est le premier flashcode du Père Lachaise. Et ce flashcode, qui est à la fois en anglais et en français, leur explique qui, immodestement, j'ai été, qui nous avons été avec ma femme pour créer cette association La Mémoire Nécropolitaine, qui s'occupe précisément de la conservation à travers l'image, à travers les milliers de photos que j'ai pu faire dans les cimetières, un petit peu de la conservation du patrimoine funéraire en général.
Et savoir où vous allez aller quand vous serez mort exactement, c'est rassurant ou c'est...
C'est plutôt rassurant, effectivement. J'y vais de temps en temps. Je ne me porte pas de fleurs, non. Mais j'y vais parce que dans la lignée de ce que je vous ai dit précédemment, moi je veux laisser des traces.
Marilyn Desbiol, sœur Alice, vous pourriez imaginer l'endroit où vous allez aller ?
Ah non, pas du tout. Alors là, ça... c'est très loin de moi.
J'étais à l'inauguration de cette tombe. Voilà, il y avait une centaine de personnes. Et c'était assez joyeux. C'était bien. Voilà.
Il est bien vivant.
Voilà. Mais contrairement à Chabot, moi, je peux mourir qu'on me laisse crever sur un trottoir. Je crois à rien. Et ça ne m'est absolument pas du tout intéressé de savoir où je vais aller. J'espère d'ailleurs que je vais complètement disparaître.
Moi, je serais contente d'avoir une petite... Ascension de Messiaen dans une église, même si j'y suis pas, en mémoire, en ma mémoire, peut-être, ouais, j'aimerais qu'il y ait une œuvre qui soit jouée, peut-être, pour que les gens qui m'aiment puissent découvrir la musique que j'aime, sans doute. Après, j'ai aussi ce fantasme, vous savez, d'être jetée dans la mer, en petite paillette incandescente.
j'ai absolument aucune idée de d'où je veux être enterrée, etc. Mais il y a un film que j'aime beaucoup de Truffaut, c'est sans doute le film que je préfère de lui, qui est La Chambre verte, qui est un film vraiment assez peu connu de lui et vraiment magnifique. Et l'idée de cette chapelle, justement, qu'il fait édifier avec tous les amis, enfin, et tous les écrivains qu'il a admirés, etc., avec ses petites flammes, est assez magnifique. J'aime bien cette idée, au fond, qui m'est chère, de voix mélangées, au fond. Parce que moi, je ne crois pas que je suis, une personne une et indivisible. Je crois beaucoup que je suis en perpétuel devenir de par les voix que je rencontre, par les voix que j'entends. Je vois pas comment le réaliser. Je m'en fiche un petit peu, mais l'idée que toutes ces voix se mêlent dans cette pluralité de flammes, je trouvais que c'était magnifique.
Mes morts possèdent un endroit maintenant qui est irrévocablement à eux. Mais vous voyez, cette ancienne chapelle ne sera pas un lieu de mort, ni un lieu de repos, mais un lieu de vie. Même lorsque nous ne serons là, ni vous ni moi, ces flammes continueront à briller, à respirer, au rythme du cœur humain. Aucune d'elles ne devrait s'éteindre.
Mais tous ces portraits, toutes ces personnes, vous les avez connues ?
Oui, ce sont mes amis disparus. Vous êtes jeune, mais vous verrez qu'à partir d'un certain moment, on en arrive à connaître beaucoup plus de morts que de vivants.
On va lire un petit extrait de Ceux qui reviennent de Marilyn Débiol, Anne Stephens.
Comment pense-t-on aux morts dans le cimetière ? Peut-on penser à ce qu'ils ont été vivants ? Nous nous efforçons de ne pas penser à ce qu'ils deviennent sous le béton, mais nous y pensons par effraction, quand bien même nous nous agitons, nettoyons la tombe, ajustons les pots de fleurs. Nous avisons le petit sifflet par lequel les gaz s'échappent. Attention à ne pas le boucher, la tombe exploserait, avait dit la dame de la mairie préposée au cimetière. C'est déjà arrivé. Notre peur, notre effroi, notre peine même, nous empêche de penser à ce que les morts ont été vivants. Nous pensons trop à nous, à ce que nous deviendrons nous-mêmes sous le béton. Nous ne pouvons précisément nous le représenter, mais nous savons. Et même si ce savoir, sa crudité sont salutaires, ils nous empêchent de penser à nos morts, à leurs gestes de vivants, leurs sourires, leur allure. Quelques mois après sa mort, mon père m'apparut.
Rodolphe Solal, famille Constant, le colonel Amoros, né à Valence en Espagne. Avenue de l'Ouest, 7e division.
On peut peut-être aller sur la tombe de Robert Desnos.
Allez-y. Jacques Théron.
Alors on est devant la tombe de Robert Desnos. Est-ce que vous savez, Marilyn Desbiol, où vous allez déposer votre rose rouge?
Ben non, je ne sais pas encore. Vous voulez m'inciter à le
déposer? Non,
non, non,
vous êtes libre. Comment pense-t-on à nos morts? C'était la question que vous posiez. Et puis, votre père est apparu.
Fortuitement, oui. C'est-à-dire, fortuitement, je me demandais... C'est comme ça. Enfin, il me semble que plusieurs semaines après sa mort, je le revoyais dans des silhouettes de vivants, alors. Dans n'importe quelle silhouette, c'est ça qui était... Au début, c'était des gens qui lui ressemblaient vaguement. Et puis finalement, je me suis rendu compte que sa greffe prenait dans n'importe quelle silhouette, dans n'importe quelle... Et peut-être même dans des arbres, au fond. et ça m'arrive toujours, maintenant. Je trouve, et c'est très... Comment dire, c'est presque chaque fois une sorte de joie, au fond, de voir que les qu'il n'y a pas de séparation, quoi, entre les vivants, et qu'il y a des choses communes, des espèces d'attitudes, ou peut-être même c'est très ténu vraiment ce qui nous appartient en commun. Mais ça, j'en suis convaincue. C'est à ce moment-là que j'aime pas tellement cette expression de faire le deuil, parce que au fond, ça c'est une injonction. On nous dit il faut faire le deuil. Bon. Non, on n'est jamais consolé de la mort de quelqu'un qui nous a été proche. Mais en tout cas, c'est une autre vision que cette vision d'une disparition à jamais, quoi. Cette greffe, je dirais, dans les vivants.
Et est-ce que ceux qui reviennent, là c'est le titre de ce dernier livre, et ils reviennent, voilà, vous vous promenez dans un ou deux cimetières, celui où il y a votre père, votre grand-père, et les choses reviennent. Mais est-ce que ceux qui reviennent, ça pourrait pas être le titre finalement de beaucoup de livres, ou même de l'écriture, ou...
Tout à fait, oui, oui. Parce que je pense que l'écriture, c'est d'abord un hommage aux morts. Et moi, ce qui me... Enfin, aussi, quand je vais sur la tombe de mon père, ou quand je pense à lui, je continue à me battre avec lui, parce que on n'était pas toujours d'accord. Et il y a des choses qui me font rire, comme même dans le passage qui a été lu, ces espèces de trivialité de la mort, hein, comme le petit sifflet. Ou alors, par exemple, un truc qui m'avait beaucoup amusé, c'est que le marbrier avait écrit le numéro de son téléphone portable gravé dans le marbre. C'est quand même des choses, moi ça me fait, bon, c'est des choses qui me font beaucoup rire.
Pour qu'on l'appelle au cas où.
Voilà, au cas où. Et puis comme si son numéro de téléphone portable
allait durer.
Bon, c'est des choses comme ça. Et je continue à me battre avec mon père et à rire avec lui aussi. Et puis à l'inventer. Là, dans ceux qui reviennent, il y a une espèce de manif. tout d'un coup que j'imagine, et à laquelle participe mon père, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Donc il y a... C'est presque blasphématoire, vous voyez, au fond. Mais je ne pense pas à... Je n'essaie pas de faire revivre mon père dans ce qu'il était vraiment. Voilà. Je le réinvente. Et quand je parle de mon père, je parle évidemment d'autres morts aussi. Je le réinvente avec moi. Je me réinvente avec lui. C'est ça qui est vivant, quoi. Et c'est quand même ça qui m'importe aussi. C'est de faire que tout ça ne soit pas... C'est ça qui me ferait horreur, ne soit pas figé, voilà. Ne soit pas là, pour toujours, définitivement, gravé, au fond.
Et d'ailleurs, de livre en livre, il y a ceux qui reviennent. Il y a aussi, dans l'écriture, par exemple, la figure de Primo.
Voilà. Il revient. Alors,
en premier enfant de vos grands-parents.
Voilà.
Qui
a disparu dans des circonstances dramatiques liées à l'histoire et au fascisme, et qui revient avec des variantes aussi, qui revient dans beaucoup de mes livres. Et chaque fois il y a une petite, parce qu'évidemment c'est pas comme une sorte d'effigie comme ça, de petite image sainte qui s'incrusterait dans chacun de mes livres. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment ces personnages, ces morts, parce qu'ils se trouvent à côté d'autres, tout d'un coup changent. Tout d'un coup, c'est comme si la lumière leur donnait une autre allure. Et donc ces variantes, elles sont infinies pour moi. C'est, au fond, c'est ce qui m'intéresse, c'est de reprendre à chaque fois le même et de voir ce que ça fait quand on le met à côté d'un autre nom ou d'une autre vie.
Là, on est au cimetière Montparnasse, donc sous ce ciel un peu gris et lourd. Les cimetières que vous avez traversés, vous, c'est plutôt dans le sud.
Oui.
Enfin, en tout cas, il y en a un vers Nice.
Oui.
Et puis un autre en Haute-Savoie. Il ressemble à quoi ?
C'est
très différent de...
C'est des tout petits cimetières de rien, avec aucune tombe remarquable. C'est des cimetières. D'ailleurs, le cimetière où est enterré mon père, on pourrait dire qu'il est assez moche. Hormis le fait qu'il y ait une vue très très belle sur les collines de Nice. Mais sinon, c'est un nouveau cimetière avec des tombes en béton. Et puis alors, un truc qui est vraiment horrible, c'est qu'il est recouvert de fleurs artificielles. Enfin, en tout cas en hiver, c'est très très moche. Mais bon, là aussi, on n'est pas là dans la sanctification. Ça me fait rire de voir toute cette profusion de fleurs. Alors pour le compte, très très figées, qui ne sentent rien, qui sont très mortes.
André Chabot.
Oui, je voulais simplement vous signaler que sur la tombe de Robert Desnos, je viens de trouver un petit bouquin comme ça qui a été déposé apparemment par quelqu'un qui venait d'Espagne. Mais en exergue, on peut lire une citation de Henry James qui, je trouve, n'est pas mauvaise en la circonstance. Dites-vous bien que si vous avez été haï, vous avez également été aimé.
Est-ce que vous avez déjà entendu chanter dans les cimetières ?
Oui. Alors ça, c'est un souvenir tout à fait étonnant. Dans le cimetière de Budapest, il y a aussi un certain nombre d'années, j'étais comme d'habitude en train de faire des photos. Et puis, tout à coup, monte dans le cimetière une musique tzigane. Alors à Budapest, c'est pas très étonnant. Toutes affaires cessantes, je me dirige vers ce son. Et là, j'ai aperçu un des plus beaux cortèges funéraires que j'ai pu voir dans ma vie, à savoir vraisemblablement les funérailles d'un musicien tzigane. Et le cercueil était suivi par un certain nombre de musiciens. Des types extrêmement beaux. Alors, ils étaient habillés évidemment tout en noir, avec la chemise blanche, la cravate noire. Des types avec des cheveux longs, un peu gominés, un peu huileux, vous voyez. Puis alors, des espèces de rouflaquettes extraordinaires, mais vraiment des gueules. Et parmi ce cortège, il y avait un certain nombre de musiciens qui avançaient en jouant du violon. Et ils sont arrivés au bord de cette tombe, et là j'ai assisté à des espèces de signes, de marques d'hystérie collective. Je me souviendrai toujours qu'il y avait un type, justement, alors que les violons continuaient à jouer, qui voulait se précipiter dans la tombe pour rejoindre le parent qu'il venait de perdre. Et puis j'ai vu aussi, et ça c'était une première pour moi, des femmes, mais il y en a eu plusieurs, qui se sont évanouies. Et j'ai vu des types porter ces femmes évanouies dans leurs bras et les ramener vers les voitures qui étaient de côté. Et là, je peux dire une chose, c'est que je n'ai pas pu faire de photos. C'était trop extraordinaire. J'avais l'impression d'être un peu un voyeur, un intrus, donc je me suis abstenu de photographier.
On va faire quelque chose de beaucoup plus modeste avec Sœur Alice. La première chanson que j'ai chantée, elle s'appelle Holy Ghost, donc ça veut dire Saint-Esprit. Et en fait, l'idée, c'est quelqu'un qui arrive à trouver une forme d'existence dans la mort et qui a le sentiment de trouver une forme de gloire dans la mort parce que tout le monde vient la voir, tout le monde se penche sur sa tombe, il y a des
des enfants qui jouent au loin, mais des femmes qui pleurent et des gens qui posent des questions en disant est-ce que son corps va sentir la rose, pour savoir si ou pas ça va devenir une sainte. Et elle rend gloire à la mort comme une espèce de martyr, en fait. Voilà, une espèce de forme d'hystérie. Donc on rejoint un peu ce que disait André Chabot. André Chabot. C'est l'indétermination de John Cage. Tout peut arriver au milieu du morceau. Tout est possible. Pour accompagner la musique. Crowded around my coffin, congregation in mourning, newcomers asking if I communicate with the divine, but what do they expect from me? Crowded, my corpse lying aside, children are playing, some of them look at the sky, some of them pierce their eyes, but they still can hear me. Whispering the glory of day. Their knees asking for eternity, some rumors asking if my dead body will smell like flowers, but what do they expect from me? Crying, falling on their knees, asking for eternities. Some of them look at the sky, some of them pierce their eyes, but they still can hear me. Whispering the glory of death. J'ai souffert. C'est drôle, hein. Dès qu'on a un rapport comme ça à la mort ou au religieux, au sacré, etc., on se dit tout le temps que si on souffre, c'est qu'il y a une raison. Et on se retrouve toujours dans une espèce de position de se dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi à ce moment-là, j'entends dans un cimetière, mes doigts me brûlent. Le mysticisme.
C'était Sœur Alice sur un banc entre la famille Defay et la famille Laproste-Camaille. On avance dans le cimetière Montparnasse, entouré par le passé mais bien vivant. On parle, on fait entendre des voix, on bouscule le silence. Sœur Alice avait imaginé aller plus loin, faire du cimetière un orchestre avec Amor, un mouvement qui naît, qui fusionne, une mélodie à la fois très concrète et métaphysique, le son du cycle de la vie. Mais heureusement, on peut l'écouter à l'infini et la fin n'est jamais sûre. Sœur Alice, comment on transforme un cimetière en orchestre? Ou comment on fait entrer un orchestre dans un cimetière?
L'orchestre, je me suis interrogée sur qu'est-ce que peut être la musique des morts. Et le projet de départ, c'était la musique des morts, par les morts et pour les morts. Donc l'idée, c'était que les morts jouaient une musique pour eux-mêmes, ces fameux morts qui ont quitté le cimetière, parce qu'on s'embête un peu dans un cimetière, mais qui reviendraient éventuellement jouer. C'est plus l'idée de la matière, en fait, qui se transforme. Ça a été très difficile parce que les sons concrets, on a eu beaucoup d'essais, on a pris des sons dans le cimetière, des sons concrets, ça ne marchait absolument pas. Ça donnait le sentiment qu'il y a des choses qui grouillaient, ce qui était très gênant. Il y a eu des essais avec des voix, ce qui ne marche pas du tout non plus, parce qu'on a l'impression qu'il y a des revenants. Et c'était très délicat. Et en fait, c'est une installation donc, qui est sur 24 enceintes qui sont disposées normalement dans le cimetière, qu'on peut utiliser avec un système de localisation GPS, avec un casque qui repère où vous êtes. Donc c'est comme s'il y avait les sources existaient dans le cimetière et vous pouvez tourner autour des sources. Et sur cette idée-là, je me suis dit que j'allais mettre un orchestre à l'intérieur, dans la disposition d'un orchestre à l'intérieur du cimetière. Donc les vents au fond, les violons devant, etc. sur les 24 enceintes et écrire une pièce orchestrale. Au départ, donc on sortait du caractère concret et on gardait par le fait que ce soit des instruments traditionnels, donc pas l'électronique, etc. On gardait le caractère de la matière. On avait les vents, les bois, on avait les cordes frottées, les cordes pincées, etc. Et finalement, ça a été encore une fois très difficile de composer une œuvre qui... De la musique, est-ce que ça va être de la musique dite religieuse ou la musique sacrée, qui est quand même extrêmement réglementée, la musique sacrée par les encycliques, etc. Donc c'était compliqué. En fait, je suis allée voir à la salle Pleyel des airs de Steve Reich, et simplement, je dis, mais quel idiote, évidemment. C'est ça la matière, en fait. C'est ça, c'est-à-dire un grand ensemble qui se répète et une décomposition permanente d'une mélodie, une décomposition permanente de plus en plus rapide. Donc, en fait, dans le chemin, il y a une harmonie qui se fait entre toutes les voix. Et au fur et à mesure, elle devient qu'une seule note. Et cette note, en fait, donne une espèce de sentiment de timbre très, 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 très joli qui se mélange et qui, du coup, donne une espèce de sentiment de ce que pourrait être... Après, c'est évidemment mes représentations à moi, hein, mais le sentiment de que la mort, ça serait aussi une forme d'unité ou une forme de rassemblement, ou que ce serait un moment où, en fait, tout ce qu'on est se concrétise en une seule chose, même si jamais c'est plutôt une dispersion de la matière, que ce soit, et que tous les gens se rassemblent à ce moment-là. Donc, il y a cette idée-là. Et ensuite, ça repart, ça ralentit beaucoup, beaucoup, et ça repart, en fait, il y a un recycle. Donc un recycle d'encore d'une nouvelle vie, d'une nouvelle mort perpétuelle. Et...
Donc, c'est une boucle qu'on peut écouter à l'infini, finalement.
Ouais, on peut rester toute la vie dans le cimetière à écouter si on veut l'œuvre tout le long. Il y a vraiment aucun problème.
Garnier, vous qui connaissez beaucoup de cimetières différents dans le monde, est-ce qu'il y a des cimetières où vous avez rencontré la musique ?
Oui, au Guatemala. Mais oui, j'ai mis une fleur dans cette tombe. Je suis mal à l'aise, moi, dans ce cimetière, parce que d'abord, les morts ne m'intéressent pas vraiment, d'une façon générale. Je trouve que les gens qui vont, par exemple, regarder la tombe de, je sais pas, Jean-Paul Sartre tout à l'heure, là, il ferait mieux de lire Jean-Paul Sartre, et puis ça n'a aucun intérêt de voir sa tombe. Et puis, c'est quand même grisaille, c'est pas beau, etc. Et moi, je suis à la recherche, c'est pour ça que je pense que je vais dans des pays, je suis à la recherche plutôt de la couleur, des petits cimetières où les gens, il y a une unité, il y a des choses extraordinaires. Alors justement, au Guatemala, j'en ai vu un qui est très très beau, là. Et à l'intérieur, parce que vous me parlez de la musique, il y avait une cérémonie, il y avait des chamans, uniquement trois, qui avaient mis qui faisaient du feu. Puis, alors, je n'ai pas très bien compris, il y avait plein de cigares autour, des gros cigares d'ailleurs qui étaient allumés, qui flambaient, quoi, hein. Et puis les gens chantaient autour. Donc c'était dans le cimetière. Alors c'était à la fois une cérémonie et puis à la fois quelque chose d'assez individuel, puisqu'il n'y avait que trois personnes. Donc voilà. C'était, donc il y avait un chant, ça a duré assez longtemps, ça a duré au moins trois quarts d'heure. Je me souviens de ce chant-là.
Vous l'avez déposé où, votre rose rouge ?
Je l'ai déposé sur la tombe, là, complètement anonyme. Personne ne s'intéresse à cette tombe, sans doute. Et avec la fleur, il va peut-être y avoir des visiteurs qui vont dire « Tiens, c'est peut-être intéressant. Le pauvre, il n'a jamais reçu de visite. Complètement isolé. » Elle est moche, d'ailleurs, cette tombe. Comme la plupart ici, c'est vraiment pas beau. Hein, c'est grisaille, il n'y a pas d'unité, parce qu'il y a des grandes, des petites, et puis toutes les petites sont à peu près pareilles quand même. Sinon, c'est vraiment très laid. Hein. Alors qu'il peut y avoir quand même des tombes individuelles qui sont intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très moche.
Et justement, dans vos photos, elles sont en couleur,
oui.
Elles sont prises. C'est pas les tombes que vous prenez, c'est les cimetières.
Absolument.
Dans le paysage.
Voilà, vous avez remarqué, oui, très bien.
Et c'est très coloré, très beau et souvent assez joyeux, justement.
Voilà. Alors pourquoi ? Parce que moi, je suis un mec assez artificiel, contrairement à mon ami Chabot, qui, lui, dans les cimetières, peut rester 8 heures, connaît toutes les tombes, etc.
Se faire enfermer
dans les cimetières, ouais. Etc. Et moi, je suis superficiel. Disons que ce qui m'intéresse, c'est une vue d'ensemble du cimetière. Hein. Donc, si je peux, par exemple, ici, je suis monté sur la tour, là, pour évidemment avoir une vue. Le jour où il y avait de la neige, c'était très beau. Hein. Donc, et j'aime beaucoup les cimetières colorés, donc en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Donc, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ces petites communautés qui ont créé quelque chose où souvent il y a une belle unité.
Il y a des cimetières où il y a des sons aussi, d'ailleurs. Il y a certains cimetières où ils utilisent des petites lames métalliques, je ne sais plus où, je crois que c'est au Mexique, non ? Où il y a le vent, enfin il y a des petites installations au-dessus des tombes.
Oui, enfin, ça
pour que le vent vienne.
Partout au Japon, par exemple, dans les Jizo. Vous savez, les morts, c'est unique dans le monde. Les enfants morts-nés ou les enfants avortés, etc., ont fait une petite tombe avec une petite sculpture qui est faite par les bonzes. Et souvent, il y a des petits moulins avec le vent, donc ça boue, ça fait plein de bruit. Oui, voilà. Mais il y en a d'autres aussi comme ça.
Je trouve que c'est assez joli, cette idée de garder... quelque chose de qui fait du bruit, en fait.
Oui. Aux États-Unis aussi, les cimetières où il y a des enfants, ça fait aussi...
Parce que c'est le silence d'un cimetière aussi, c'est particulier.
Les petits moulins, c'est ça.
Il y en a qui sont très beaux, par exemple, au Mali, avec des poteries.
Oui. Alors, dans ces cimetières, avant, à une époque, on enterrait les morts debout, et on leur mettait une espèce de calebasse sur la tête, hein. Donc maintenant, ça se fait plus, mais il y a toujours la calebasse en terre cuite. Hein, voilà. Alors, ce cimetière, il est très beau. C'est près de Tombouctou. À Tombouctou, d'ailleurs, je crois, dans la banlieue de Tombouctou, c'est plein de petites poteries comme ça. Voilà.
Oui, au milieu du sable.
J'ai retrouvé ça aussi ailleurs, je crois, au Togo. Oui, hein, des petits cimetières ethniques comme ça. Oui.
Les plus simples sont souvent les plus émouvants. Au Sénégal, c'est aussi quelques piquets. Il y a un cimetière pêcheurs que vous avez pris en photo.
Oui.
C'est des piquets de bois, simplement.
Voilà. Souvent, effectivement, il y a des cimetières très simples et très minimalistes. Hein. Là, c'était des piquets de bois, oui, absolument. Oui. Par contre, il y a des pays où la tombe... Je pense par exemple à Madagascar, où les gens sont très pauvres, mais ont des tombes très, très importantes. Souvent, d'ailleurs, des tombes isolées. Et un jour, je demandais à un malgache, je posais la question. Sa tombe, il m'a dit oui, mais ça coûte 10 fois plus cher que ma maison. Mais il me faisait comprendre que c'était pour l'éternité, qu'il fallait que ça dure longtemps, quoi, hein, que la vie sur Terre, c'était pas grand-chose. Voilà. Donc les gens mettent beaucoup d'argent dans la tombe. Oui.
La première photo que vous avez prise d'un cimetière, enfin l'idée de... tout à coup de vous balader dans les cimetières du monde, c'est venu où ?
Alors, c'est assez banal comme toutes les choses. J'étais à Bangkok pour le travail et il faisait chaud, humide, il y avait du bruit, tout ça. Et je me suis réfugié dans un square pour être un peu à l'abri, pour pouvoir lire un peu. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il était quand même un peu bizarre ce square. C'était un cimetière. Alors j'étais un peu étonné parce qu'effectivement, moi je connaissais que les quelques cimetières, pas beaucoup d'ailleurs en France. Et après, je me suis mis, quand je faisais des voyages, à photographier les cimetières. Voilà, petit à petit. Comme ça, quoi. Je pense que le cimetière, pour moi, c'est plus un alibi qu'une réalité, puisque ça me permet de dire, tiens, ce pays, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais aller faire des photos dans les cimetières, hein, voilà. Hein, mais j'aime surtout le voyage, peut-être plus que le cimetière. Hein.
André Chabot.
Moi, si je fais tout ça depuis plus de 40 ans maintenant, et là, je tiens à rendre hommage à quelqu'un, à mon grand-père maternel était un poilu de 14, beaucoup, qui a été blessé plein de fois, qui a été gazé, très gravement gazé. Donc il a passé en gros de 1910, parce que le service militaire était très long, jusqu'à 1919, parce qu'on ne l'a lâché qu'à ce moment-là, à l'armée. Mon grand-père était donc un grand invalide de guerre. J'ai donc vécu dans les récits de la guerre de 14-18, de cette épouvantable boucherie. Et mon grand-père, quand ma grand-mère est décédée, il n'a pas supporté, parce qu'il perdait à la fois son épouse, la seule femme de sa vie, et puis son infirmière aussi. Donc mon grand-père s'est suicidé. Et je venais, en plus de perdre un enfant, donc c'était un peu compliqué pour moi, et il a fallu que je règle mes comptes avec la société d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans les cimetières. Et par quel cimetière j'ai commencé ? J'ai commencé par les cimetières militaires. Et c'est en découvrant finalement le cimetière, à travers les cimetières militaires, que j'ai pu découvrir que le cimetière est intéressant dans la mesure où il nous parle des vivants. On peut étudier la société des vivants à travers la façon dont les vivants traitent leurs morts. Voilà le point de départ.
Marilyn Desbiol.
Oui, moi ce qui me frappe aussi, c'est que, au fond, on est. Moi j'ai toujours eu le sentiment dans un cimetière d'être un clandestin. Et c'est aussi parce que je l'ai fréquenté enfant et qu'on allait s'amuser, on faisait des choses pas très catholiques. C'était pas non plus extravagant, mais on allait peut-être piquer des petites perles, voilà pour se faire des colliers, voilà des choses comme ça. Mais ouais. Le sentiment d'être caché, d'être pratiquement dans des endroits de cabane, vous voyez. Et ça, c'est un sentiment qui est quand même fort et qui me reste, de ne pas être dans la vraie vie sérieuse, etc., d'être clandestin, de faire des choses un peu. Moi, je me souviens de Tonde, d'ailleurs, qui était à moitié cassée. Alors, on essayait de voir, de jouer à se faire peur, de voir quelque chose. Et bien sûr, on voyait des choses incroyables. On les inventait, quoi, bien sûr. Mais voilà, il y a de ça. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a là-dessous aussi ? C'est d'avoir moins peur de la mort, quand même. Hein. Jouer à se faire peur pour l'affronter, sa peur aussi. Il y a aussi de ça, quand même.
On va lire un petit extrait, Anne Stephens, de Ceux qui nous reviennent, de Marilyn Desbiol, et justement du corps étranger.
Il faut dire que nous n'avons jamais été proches. ne nous sommes pas parlé, n'avons pas joué ensemble. Je l'ai plusieurs fois irrité et il était irritable. J'étais gênée quand il faisait le pitre, qu'il avait un coup dans le nez, comme disait sévèrement ma grand-mère. Encore plus gênée quand il se déguisait en femme, et quand bien même il n'était pas le moins du monde efféminé, de découvrir en lui des signes de prétendue féminité, après rasage trop fort, trop fleuri, ou peau excessivement blanche. Le petit bout de peau aperçu un jour par mégarde, alors qu'il était caché d'habitude sous les multiples couches de maillot de corps, flanelle, chemise américaine. Corps de pitre, corps bruyant quand il riait, un drôle de rire modulé dans les aigus découvrant largement les dents, quand il aspirait les spaghettis. Trop de corps, corps en trop de mon grand-père. Nous n'avons jamais été proches. La bouche en cul de poule, quant à moi, née traître, il faut croire, à ma famille, à mon milieu. On se demande d'où elle sort, avait dit de moi mon parrain et oncle, le frère de mon père. D'où elle sort, celle-là? Peut-être bien, comme il s'était enquis du cadeau qui me ferait plaisir et comme des disques de musique classique, fut ma réponse. Traître à mon milieu, sans doute. Mais pas du tout passé de l'autre côté, où on renifle sur le champ d'où je viens, et jusqu'à mes goûts de luxe qui signalent le plouc, même s'il s'agit de vrai luxe, même s'il n'est pas question de faire le nouveau riche. Mais sans la retenue, l'inimitable, l'inaccessible détachement. Trop de corps, corps en trop de mon grand-père, corps étranger.
C'est aussi des corps étrangers que vous avez redécouverts en parcourant les cimetières.
Oui, à commencer par le mien. c'est toujours... Enfin, on est toujours aussi dans l'histoire de l'origine, par exemple... Parce qu'on va sur la tombe de ses grands-parents, de ses aïeux, et en même temps, on s'aperçoit qu'on est toujours dans une origine fantasmée, dans une origine étrangère, j'allais dire, parce que mes grands-parents étaient italiens, mais pas seulement, parce qu'au fond, je les connaissais pas du tout, figés qu'ils étaient dans le rôle de grands-parents. Et tout d'un coup, on se rend compte aussi qu'ils sont des époux, des parents, qui sont avec leurs propres enfants et tout ça et comment dire fait voler en éclats toutes ces histoires d'origine au fond qui sont éparses, qui sont lacunaires, qui sont imaginaires.
André Chabot, c'est quoi le petit hôtel des morts portatif?
Ah, alors ça c'est un objet que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années, précisément pensant à mes grands-parents. Je sais pas, vous savez, chez les Asiatiques, souvent il y a un petit hôtel des morts à la maison, ou il y en a aussi en France dans les boutiques. Vous allez chez un marchand chinois, il y a un petit hôtel des morts dans un coin. Bon. Alors j'ai fait un petit hôtel des morts portatif, c'est-à-dire que j'ai une valise toute bête dans laquelle il y a l'urne avec les cendres de proches, de très familiers, de moins proches, etc. Et lorsque j'arrive dans un hôtel, puisque nous parlions d'hôtel tout à l'heure, de préférence d'hôtel de luxe d'ailleurs, je suis sans doute un plouc, mais je tiens bon. Parce que pour moi, les voyages dans les cimetières s'accompagnent de séjours dans des hôtels de luxe. Je peux, après avoir marché, avoir fait des kilomètres dans le cimetière, j'ai droit à ma récompense, je vais bien manger, je vais bien boire. Et si possible, encore essayer de bien faire l'amour, si je peux encore le faire. Bon, alors, donc, ce petit hôtel des morts, vous l'ouvrez dans la chambre à laquelle vous êtes arrivé, et vous branchez. C'est-à-dire qu'il y a une urne, mais il y a aussi une lampe, une petite lampe. Et cette petite lampe, elle est en forme de croix.
Oui.
Donc ça s'allume, et là on peut continuer à penser et à honorer ces morts que l'on emporte avec soi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas droit à tout ça. Il y en a beaucoup qui n'ont personne sur leur tombe. Il y en a beaucoup à qui on ne pense pas. Et tout à l'heure, Jean-Claude Garnier a eu un geste que j'ai bien aimé, parce qu'il a déposé une rose sur une tombe, manifestement une tombe anonyme, une tombe qui n'est pas visitée, une tombe complètement moussue. Et je voudrais vous signaler quelque chose que, il me semble, on pourrait peut-être accommoder, refaire ailleurs, etc. Il y a à Vienne en Autriche, à côté de la ville, un endroit tout à fait étonnant, c'est un cimetière qu'on appelle le cimetière des Unbekannte, des gens inconnus. Parce que c'est dans un coude du fleuve, dans un coude du Danube, et là, on a recueilli, surtout, peut-être qu'on le recueille encore aujourd'hui, des corps qui viennent s'échouer. Des gens qui ont été, qui se sont suicidés ou qui ont été assassinés, etc. Et ces corps, on les a mis dans un cimetière. Et chaque fois, sur la tombe, il y a une croix, bien sûr, mais il y a écrit « Unbekannt », inconnu. Et tous les ans, au moment de la Toussaint, il y a une cérémonie tout à fait émouvante dans ce petit village, où après discours du maire, et justement, là encore, musique, et musique, vous imaginez, musique funèbre, mais jouée par une espèce d'orphéon municipal qui joue faux, c'en est un vrai bonheur, hein, tout ça avec des gars en leden vert, avec le petit chapeau, avec le petit plumet sur la tête. Bon. Et alors, il y a un discours, et il y a un catafalque, avec un cercueil, des couronnes, et le cortège va vers le Danube. Il y a un orchestre donc, qui joue cette musique funèbre. On descend le cercueil sur les rives du Danube. On le dépose sur un bateau. Le bateau s'éloigne. C'est une petite barque. Hein, et à un signal donné, il y a un coup de feu. On jette ce cercueil à la mer. Et ce cercueil va défiler, va
la mer.
Couler vers la mer, va descendre le Danube. Et cette cérémonie accomplie, il y a une seconde partie où à ce moment-là, on va dans ce cimetière, il y a de nouveau de la musique, et chacun a pris à l'entrée du cimetière une rose et va la déposer sur la tombe d'un inconnu. C'est-à-dire que chacun choisit une tombe, mais alors complètement au hasard. Tout ça pour montrer que les morts ne sont pas oubliés et que même ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ces visites, il y a au moins une fois par an quelqu'un, un inconnu, peu importe, qui va sur leur tombe pour leur dire « Nous ne vous oublions pas ».
C'est comme une sorte de lit où on retourne dormir la nuit. Et c'est là qu'on les retrouve. Et du coup, les couples se retrouvent ensemble, et parfois malheureusement l'un sur l'autre. Ou heureusement. Et dans les caveaux, alors là, on fait des dîners, quoi.
C'est pas ce qui se passe. À l'intérieur du cimetière, il y avait Alice Ramon à la préparation, Lionel Quentin à la réalisation, à la prise de son, Étienne Leroy. Nous étions au cimetière Montparnasse. On a raccordé les temps, passé, présent, comme dans le sommeil dans lequel vous allez entrer. Les temps sont liés, nous sommes les vivants, prêts à dialoguer avec le passé. Baudelaire, Maupassant, Sartre, Gainsbourg, Wolinski, les Parnassiens nous accompagnaient de loin. Nous étions près du tombeau, confident de mon rêve infini. Rêvez bien, il est minuit, c'est le cycle de la vie, c'est infini. C'est l'heure des nuits sur France Culture.